LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
La première fois que j'ai vu ce mot, c'était un tag dans la banlieue où j'habitais. J'ai vite compris que c'était une insulte. Et ensuite, c'était un peu un mot qui était répété pendant des moments où j'étais un peu harcelé à l'école quand j'étais petit.
Moi, j'ai été très marqué quand j'étais très petit sur le mot tapette. Tout le monde me traitait de tapette et je voulais savoir ce que ça voulait dire, en fait. Et j'ai compris qu'il fallait surtout pas que je sois tapette. Mon père était officier de marine et il nous ramenait des cadeaux des pays où il allait. Et il savait que pour moi, le seul cadeau qui me plairait, c'était la poupée du pays. Et un jour, j'ai demandé, je veux un camion pour que justement, il n'y ait plus cette histoire de tapette. Et donc, j'ai eu un camion Tonka. Dans le cas, je mettais toutes mes poupées.
Le Marais, Paris.
Au cours préparatoire, je me suis fait aligner sur un grillage en entendant le mot « tapette ». C'était une tapette, on n'aime pas les tapettes. Premier contact avec cette réalité, donc, avec des mots que je ne connaissais pas, mais je savais du coup que j'étais ça dans le regard des autres. Et à partir de là, tout le processus scolaire a été plutôt complexe.
Je pense que les PD ont une lumière, une sorte de flamboyance qui gêne beaucoup les gens, et c'est pour ça qu'ils essayent de nous empêcher de vivre comme on le veut. Et je trouve ça malheureux, mais on est toujours là et on sera toujours là pour se battre. Donc voilà. On apporte beaucoup de beauté à ce monde et de légèreté et de couleur. Et il en manque malheureusement.
Être PD aujourd'hui dans une grande ville, dans un milieu socioculturel plutôt favorable, c'est bien. Être PD dans un milieu ouvrier, isolé, c'est déjà beaucoup plus dur et ça n'est plus du tout la même histoire.
Pour moi, vraiment, être PD, c'est vraiment être homosexuel. De gauche, d'extrême gauche. Être gay, du coup, pour moi, ouais, c'est rentrer dans cette case que les hétéros ont créée pour nous. Alors que PD, ouais, pour moi, c'est faire la révolution. Être PD, c'est avoir été trauma par l'hétéronormativité, de l'humiliation, de la peur. La peur et du rejet, tout simplement, en fait. Pendant toute mon adolescence, toute mon enfance, et jusqu'à il y a très peu de temps, je me suis senti, en fait, et je me sens toujours, en fait, rejeté par la société. Et c'est pour ça que, du coup, en fait, je mise tout par l'amitié, en fait, entre PD. C'est un peu ce qui me sauve, j'ai l'impression. Je pense que dans mon groupe d'amis, c'est ce qui nous sauve tous. Je suis amoureux de mes copines. Enfin, moi, je suis amoureux de mes amis.
PD, réinventer le monde. Un documentaire de Camille Desombres, réalisé par Gilles Blanchard. Épisode 1. Se dire PD, un genre en soi. PD, tracé sur les murs des villes, craché par toutes les bouches, l'injure la plus courante pour abaisser un homme. Mais aussi un héritage révolutionnaire militant. Aujourd'hui, quel sens donner à ce terme? À l'ère du mariage pour tous, des assimilations symboliques, que lui resterait-il à dire? Face à la droitisation des désirs, qui oserait encore y croire? Moi, j'arrivais pas à me résigner. Ce mot qui avait percuté ma vie au point d'être gravé sur ma peau, j'avais envie de continuer à penser avec, lui rendre son pouvoir de transformation. PD, réinventer le monde, comme une question ou une provocation, un cri de ralliement pour une meute espérée à venir. Pour ça, retour 5 décennies plus tôt. En 1968, un comité d'action pédérastique révolutionnaire placarde des affiches sur les murs de la Sorbonne. En 71, créé dans les pas du mouvement de libération des femmes, qui compte de nombreuses lesbiennes, le FAR, Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, naît en alliance avec la lutte féministe. Mais rapidement, la surreprésentation des PD et les divergences sur les priorités de la lutte pousseront certaines militantes à fonder les Gouines Rouges. Face au rejet de la gauche, le FAR répond « Notre trou du cul est révolutionnaire » et théorise l'homosexualité comme pratique insurrectionnelle. Le mouvement soutient les luttes des travailleurs comme celles des immigrés, et entend dénoncer toutes les institutions sociales, en premier lieu desquelles la famille.
Alors nous sommes à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, l'École des Beaux-Arts, qui a eu la particularité d'accueillir au début des années 70 les assemblées générales du Front homosexuel d'Action révolutionnaire et également d'ailleurs les assemblées générales du mouvement de libération des femmes.
Antoine Idier, sociologue et historien.
L'École des Beaux-Arts était déjà un lieu de la contestation parisienne pendant le mouvement de mai 1968. Et c'est probablement dans la continuité de cette agitation politique-là que le MLF puis le FAR se sont retrouvés ici.
Si maintenant on a pu apparaître publiquement le FAR, c'est vrai que c'est dû à mon avis essentiellement à la brèche qui a été ouverte par le MLF. C'est-à-dire au moment où il a été dit aux gens, on va partir de ce qu'on est et pas simplement de nos idées politiques et tout ça. Ça, c'est une chose qui a bien rentré dans la tête et qui fait que les gauchistes ont commencé à être prudents et à plus trop oser dire a priori ça c'est bourgeois ou ça c'est prolétarien. Ce qui est franchi ces temps-ci, c'est l'étape dans laquelle on va plus se réunir autour des idées politiques a priori ou de la stratégie. On va avoir des mouvements comme ça où les mecs partiront de leur trip, les filles de leur trip, les immigrés aussi, etc. Et puis on essaiera de discuter ensemble, ça va être dur. Mais à mon avis, ça sera peut-être moins dur que des discussions entre groupuscules. Ça va être dur parce qu'on a des tas de contradictions.
La naissance du phare en 1971, c'est évidemment une profonde révolution politique et une révolution sexuelle. Révolution qui consiste en l'affirmation du caractère politique de l'homosexualité et en la constitution d'un mouvement homosexuel, politique et révolutionnaire, et en l'affirmation d'une certaine subjectivité politique, PD, homosexuel, subjectivité constituée comme révolutionnaire. Le mot PD, c'est évidemment l'abréviation de pédéraste. Pédéraste qui est un mot très banal, ou relativement banal, dès le 19e siècle, qui est d'abord un mot de la stigmatisation, un mot médical, un mot policier, un mot utilisé dans la vie de tous les jours et parfois utilisé par les homosexuels eux-mêmes. Donc très tôt, le mot pédéraste passe dans le langage commun, si je peux dire. On le retrouve dans la littérature, dans les rapports de police. On le retrouve chez Genet, par exemple, chez Jean Genet dans les années 1940. Les militants homosexuels le reprennent avant tout parce que c'est l'insulte, c'est le terme de l'insulte, et que les militants homosexuels travaillent avant tout politiquement sur la stigmatisation de l'homosexualité et sur ce que la société fait de l'homosexualité, comment la société constitue l'homosexualité comme une déviance, comme une anormalité. Et donc PD exprime évidemment, condense tous ces questionnements. Ils le reprennent aussi comme une forme de retournement du stigmate, hein, comme un retournement de l'injure, de même que quelques années plus tôt, le mouvement de la négritude, par exemple, avait repris l'insulte nègre, insulte raciste, pour en faire un terme positif, pour inventer une identité politique et culturelle. Et c'est comme ça que les militants se disent PD et pas seulement homosexuel. Le mot gay n'existait pas, hein. Le mot gay il apparaîtra plus tard, dans le courant des années 70, venu plus tôt des États-Unis.
Enfin, les PD s'affirment, sortent de la honte, de l'obscurité, du déguisement, du ghetto dans lesquels les maintenait la société bourgeoise. La société bourgeoise les réprouve parce qu'ils veulent faire leur vie en dehors de ses normes et de ses institutions. Les PD ont une façon d'aimer qui est subversive, parce qu'elle ignore les principes moraux, les concepts, les institutions sur lesquelles est construit tout l'édifice. Virilité, féminité, finalité génitale, mariage, famille, foyer, progéniture, ce sont les points d'ancrage indispensables pour socialiser l'individu dans le monde bourgeois. Le PD est étranger à tout cela, mais seul, comment peut-il se faire reconnaître ? Sa lutte n'a pas d'issue.
Dans le rapport contre la normalité de 71, qui est une des productions du phare de l'époque, il y a cette idée que le PD trahit la classe des hommes, la classe dominante.
Bien sûr, c'est une idée importante pour le mouvement homosexuel, à savoir que l'homosexuel n'est pas un homme à part entière, ou plutôt que l'homosexuel trahit ce que la société a conceptualisé comme un homme, ou le rôle social, sexuel et genré qui est imposé aux hommes. Et en particulier, ce qui est reproché à l'homosexuel, c'est évidemment d'une part de ne pas se conformer à la polarité masculin-féminin, et d'être trop féminin, trop efféminé, du coup de ne pas être un vrai homme à cet égard-là. Et puis, tout particulièrement, dans la sexualité homosexuelle, l'idée de se faire pénétrer, de se faire enculer, est quelque chose qui est vécu comme une transgression de la masculinité. D'ailleurs, enculer est une insulte au même titre que pédé, hein, dans le vocabulaire commun de la vie de tous les jours, avec cette idée qu'effectivement, être enculé, c'est forcément être dégradé, c'est ne pas être un vrai homme, etc., etc. Et évidemment, les militants homosexuels du phare sont extrêmement intéressés par cette question et par cette manière même dont est problématisée l'homosexualité. La figure de la folle est très présente dans les actions du phare ou même dans la présence du phare, tant dans l'espace public d'ailleurs que dans l'espace privé. La folle, c'est-à-dire un personnage théâtralisées, qui surjouent une forme d'efféminement, une forme d'affectation, des formes de féminité, qui est évidemment une manière de mettre en balance ces questions de la masculinité et de la féminité, du comportement masculin et du comportement féminin, de jouer aussi sur la stigmatisation de l'homosexualité, puisque la folle, c'est avant tout un personnage négatif créé par l'homophobie et par la répression, la stigmatisation sociale de l'homosexualité.
Et Antoine Idée, est-ce que se dire PD, c'est prendre le risque de réifier une position que le phare essaye en même temps de désessentialiser ?
À vrai dire, c'est le problème majeur de toute politique ou de toute politique minoritaire qui consiste à reprendre une catégorie ou reprendre un terme qui est le terme même créé par la relation de domination. Et le livre « Le désir homosexuel » de 1972, un livre pionnier de Guy Hockengame, essaie justement de faire l'histoire de cette division de la sexualité en deux sexualités, en l'occurrence l'hétérosexualité et l'homosexualité. De fait, la première phrase de mémoire du désir homosexuel, c'est « l'homosexualité n'existe pas, ce qui existe, c'est la peur de l'homosexuel ». Et c'est une question qui agite beaucoup Hockengame, de savoir est-ce qu'il faut se débarrasser même du terme homosexualité. Il dit il faut se défaire homosexuel, précisément en raison de cette méfiance de la reprise du terme même de la domination. Et puis à d'autres moments, il affirme au contraire la nécessité de se revendiquer homosexuel. Pour lui, le fait de se nommer est lié à la transmission d'une histoire et d'une culture. Et ne pas avoir de nom, c'est être voué à la disparition, être voué à l'invisibilité et à l'inverse se nommer et constituer une race, comme il le dit, une classe, un groupe, une culture, permet de se défendre contre toutes les agressions extérieures, contre toutes les tentatives de destruction et de répression. C'est une catégorie utile qui permet de contester une relation de domination, un rapport de pouvoir. Et la catégorie, à ses yeux, devient dangereuse quand elle se fige, quand elle cristallise une identité, un comportement. Pour lui, c'est un rapport stratégique de déstabilisation. La catégorie homosexuelle doit être utilisée si elle permet de défaire ou de déplacer des normes.
Et justement, est-ce que pour vous, Antoine Idié, se dire politiquement PD a encore un sens aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, se dire politiquement PD a encore un sens aujourd'hui, au sens où l'identité PD est toujours une identité sociale et donc nécessairement une identité politique. C'est-à-dire constituer cette identité PD comme une identité politique, c'est s'opposer, c'est contester un certain nombre de rapports sociaux, de structures sociales, de domination. Donc cette identité est toujours pertinente, voire est plus nécessaire que jamais, hein, d'une part parce que un certain nombre de combats ne sont pas gagnés, voire que les combats qui paraissent gagnés peuvent être reperdus à nouveau. Donc évidemment que cette identité, en tant qu'identité politique, a toujours un sens. Si on pense que être homosexuel, c'est, comme le dit Hockengame, être sujet de la peur de l'homosexualité, ou si, comme le dit Didier Ribon dans Réflexion sur la question gay, au commencement, il y a l'injure, de fait, la situation même de l'homosexualité n'a pas changé entre 1971 et aujourd'hui. C'est-à-dire, l'homosexuel reste toujours sujet à la peur, à l'injure, à l'insulte, à la violence, que ce soit la violence physique ou la violence psychique, la violence du discours, la violence du langage. Les agressions d'homosexuels n'ont pas disparu, les morts parce qu'homosexuels n'ont pas disparu. Donc en ça, l'expérience de l'homosexualité n'a pas fondamentalement changé, mais la forme qu'elle prend en 2024 est une forme moins violente que la forme qu'elle prenait en 1971.
Tapette, tarlouse, fiotte, enculé, suceur de bite. S'il y a vérité du PD, c'est d'être constitué par l'injure, explique Didier Ribon. Aujourd'hui encore, de nombreux ados n'y survivent pas. C'est le cas de Lucas, 13 ans, que ses bourreaux ont convaincu que PD valait moins que pendu, de tous les autres dont on ne connaît pas les noms. Tout au long d'une vie gay, bien au-delà du langage et des violences symboliques, PD se matérialise. On pourrait rappeler les agressions physiques répétées, les addictions et les overdoses, l'exclusion de la famille et l'isolement qu'elles suscitent. On pourrait brandir des chiffres, évoquer le harcèlement au travail, les discriminations salariales, à l'embauche ou au logement, les violences médicales ou la surexposition au VIH, toujours dans les années 2020. Mais ceci ne serait qu'une partie de la réponse. Parce qu'en plus d'un rapport social, PD,
C'est aussi un regard sur le monde ou une subjectivité politique. Un stigmate que se réapproprient ceux qui veulent en faire une armure, comme mes camarades du collectif La Théière de Lille.
Allez, on ouvre La Théière. Ok.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous faire un petit vocal pour participer quand même à l'écriture du manifeste parce que ça me tenait à cœur. Du coup, moi j'ai l'impression que La Théière, quand même, on s'est créé plutôt pour créer du lien autour de l'identité PD ou autour de la culture PD. L'idée de La Théière, par contre, ce qui est important, je pense, c'est de se dire que La Théière est ouverte à tout le monde, sans question de genre, évidemment, et même pas d'orientation sexuelle, mais qu'en tout cas, ce soit ouvert à toutes les personnes qui se reconnaissent dans le mot de PD, en tout cas, parce que j'ai quand même l'impression que c'est autour de ce mot-là qu'on s'est rassemblés. J'ai hâte d'avoir le compte-rendu, et puis je vous fais des gros bisous, et puis je vous souhaite une bonne réunion à tous et à toutes. Gros bisous, à très vite, j'ai hâte de vous revoir.
Bisous.
À mon sens, la première chose qui serait importante, c'est de dire qu'est-ce qu'on met derrière le mot PD. Qu'est-ce qu'on met dans ce manifeste, au-delà de dire être PD, c'est cool, c'est chouette, on aime beaucoup.
Ok. Ce que j'aimais bien, qu'on a aussi défini un jour, c'est ce qu'on avait réfléchi à un moment, de dire si t'as été PD, si tu l'es ou si tu comptes le devenir. Un truc un peu qui permettait de montrer aussi que PD, en fait, c'est pas forcément un truc qui va te figer et qui, pour moi, permet de sortir de l'identité et d'entrer dans le truc de culture. C'est un moment, j'ai besoin d'un endroit, d'un espace PD et avec les personnes qui y sont. Et je trouve que quand déjà t'as dit « moi, je suis PD », c'est que, pour moi, t'as fait un gros pas vers La Théière.
Juste pour revenir sur la question de l'identité par rapport à ce que Lucien a dit, en fait, c'est cette distinction entre PD et queer. Quand ça m'a été présenté, effectivement, si on me dit un collectif queer, etc., ça m'aurait beaucoup moins intéressé que le fait de faire un collectif PD. Et surtout sur la façon dont j'utilise queer aujourd'hui me convient pas. Et c'est pour ça que, sans faire une thèse sur ce qu'est l'identité PD, c'est peut-être pas notre rôle, mais déjà le fait de se dire PD, voilà, ça, à la rigueur, ça suffit.
C'est ça aussi qui est intéressant dans La Théière, et je pense qu'il nous a toutes motivées à venir, c'est que c'était pas juste les pédales vont faire la fête ensemble, même si on aime beaucoup le faire, c'est que on l'a à chaque fois fait en voulant aider les copaines, que ce soit pour PD la revue, que ce soit lorsqu'on a fait la levée de fonds avec l'aide aux ouvrières de Verbaudet, et ou même pour lever des fonds pour les ateliers d'autodéfense. Donc il y avait une filiation avec un peu ce qu'avait pu être le phare, mais je pense plus aussi à la plupart des collectifs PD, comme ça a pu être chez ACT UP auparavant.
Hervé,
c'est vrai que ça a pallié à l'absence de politisation dans le milieu gay et PD de Lille, parce que vraiment, à part des PD de droite, il n'y a pas grand chose ici. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Oh, sorry. Mais du coup, c'est vrai que c'était marrant, parce que du coup, j'ai fait mon coming out trans à la première soirée de La Théière. Et du coup, l'histoire de La Théière et de ma naissance de PD, du coup, se sont imbriquées. Et c'est vrai que ça répondait vraiment à une demande politique engagé et en même temps de faire la fête comme on l'entendait, c'est-à-dire ouvertement. On n'est pas juste des blancs PD musclés qui se rejoignent sur Grindr. On peut l'être un peu, mais on n'est pas que ça. On est beaucoup plus ouvert que ça. Et il y a aussi quelque chose, on n'est pas juste beau pour faire la fête, mais on fait la fête pour des choses qui nous tiennent à cœur, en fait.
Et
on est beau, ouais.
C'est pour ça que je dis on n'est pas que beau pour faire la fête. Elles ont un cerveau, pas qu'un physique.
Donc la vieille psychorigide arrive. Il est 19h19, je sais pas où on en est, combien de points on a, etc. On n'a toujours pas dit bonjour à Pierre, qui me dit qu'il vient d'arriver pour la première fois, etc.
Je suis très content d'être là. Je recherchais un endroit de sociabilité avec des personnes qui me ressemblent. Et JB m'a présenté ça sur un plateau d'argent. Donc je l'ai saisi, tout simplement. Parce que je n'ai que des amis hétéros depuis toujours. Je savais que ça allait faire réagir.
Que te den por el culo, enculé. Meterle los pelos del culo para adentro, va te faire enculé. A tomar por culo. Enculé de merde. Le han dado por detrás. Sal enculé. Que te follen. Enculé de ta mère. Vete a tomar por culo. Enculé de ta race. Le han dado por culo. Bougre. Se la han metido doblada. Me han jodido. Va te faire foutre. sodomisé, anglaisé. Mirale el jodio por culo. Avoir une histoire de cul. Un film de cul. Faux cul. Avoir le feu au cul. Trou du cul. Tomar por detrás. Va te faire enculer chez les Grecs. Espèce d'enculé. Voilà.
Eh bien, bienvenue, bienvenue tout le monde. Moi, je m'appelle Ruby Faure et je suis vraiment ravi qu'on puisse faire cette soirée ce soir et d'accueillir cette belle brochette de camarades et de pédales révolutionnaires pour parler de ce livre et puis pour parler aussi plus généralement, je pense, de politique radicale de pédales, de politique anale, de transféminisme et de révolution. Merci tout le monde d'avoir accepté l'invitation et je te laisse, Javier, nous parler un peu de ce livre.
Merci Ruby. Bon, merci à tout le monde pour être ici et merci à la librairie aussi pour nous accueillir. Et merci surtout à Ruby pour le travail de la préface qui est très très belle et aux autres collègues qui ont fait la traduction d'enculé.
Quels sont les liens entre le mot PD et le mot enculé? Est-ce que les deux mots recouvrent, désignent les mêmes personnes et si oui, pourquoi?
Je pense que l'anal a un rapport avec tout le monde, puisque tout le monde a un anus. Donc, il n'y a pas vraiment un rapport réel entre le fait d'être enculé et le fait d'être pédé.
Javier Saez, sociologue.
Justement, il y a beaucoup de pédés qui ne pratiquent pas le sexe anal, par exemple. Mais ce qui nous intéresse plutôt, c'est justement de masquer cette identification et surtout l'injurie qu'il y a derrière, pourquoi est tellement négatif le fait d'être enculé, surtout parmi les hommes.
Justement, vous dites être un homme et être hétérosexuel ne dépend pas tellement des organes génitaux ou des pratiques sexuelles de pénétration pénis-vagin, mais plutôt du fait de garder son cul toujours fermé et impénétrable.
Oui, c'est ça. C'est plutôt le fait de ne pas être pénétré qui te fait devenir, dans cette société évidemment, comme masculin. Et le contraire, c'est n'importe quel corps qui est pénétré devient féminin ou femme, entre guillemets. C'est pour ça que nous avons trouvé une espèce de nouvelle production de la masculinité et la féminité à partir de ça, de l'être pénétrable ou pas. Et disons que les discours anti-PD, homophobes, c'est une espèce de comparaison avec les femmes. On perçoit toujours les PD comme féminin, et à partir de ça, il y a justement une espèce de haine ou de discrimination. Alors, si tu trouves les caractères machistes ou, comment dire, patriarcales qu'il y a derrière cette espèce de haine, tu trouves qu'il doit avoir un lien avec le féminisme, parce que c'est les féministes qui avaient déjà fait cette critique.
Car vous écrivez « La panique de devenir homosexuel structure notre culture occidentale tout autant que la répression du désir homosexuel ». Donc en quoi est-ce que l'homophobie et la répression du désir homosexuel sont pas annexes mais aussi constitutives du patriarcat ?
Oui, on a l'idée que la répression du passif est toujours la même, ou historiquement constante, une constante, mais on a vu que non, que ça a changé historiquement. Par exemple, dans l'ancienne Grèce, il y avait de la pénétration entre les hommes, mais c'était interdit, entre guillemets, que l'homme mûr ou de noble éprouve du plaisir. Donc il y avait une règle un peu de classe sociale. Mais ce n'était pas une question d'homophobie ou sexuelle, mais plutôt d'un glissement de classe. Donc, le critère était de classe. Après, on a vu, par exemple, au Moyen-Âge, que les critères étaient plutôt religieux. La sodomie, c'était une chose de pas croyant ou d'un péché, quelque chose du côté démoniaque. Et par exemple, au XIXe siècle, encore, il y a un autre critère qui est plutôt, avec les sciences humaines, la psychologie, la psychiatrie, c'est un critère pathologique, ce qui avait déjà expliqué très bien Michel Foucault, c'est-à-dire la figure de l'homosexuel qui est construit déjà comme une pathologie. Alors tu vois que la même pratique, la pénétration anale si tu veux, est conçu d'une façon complètement différente parmi les sociétés ou les époques historiques. Donc ça nous a permis un peu de voir une espèce de généalogie ou de changement historique de cette pratique.
Est-ce que vous direz que le patriarcat est à la fois effrayé et obsédé par son anus?
Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce d'obsession, une espèce d'attirance et en même temps de rejet, une espèce de panique, si vous voulez. C'est comme si le patriarcat s'est construit sur cette espèce de panique anale, si vous voulez. Et justement, j'ai l'impression que même parmi les hétérosexuels, il y a une espèce de... oui, de peur d'être confondu ou d'être conçu comme PD. Il y a toujours une espèce de rejet qui passe par le fait de ne pas être pénétré ou l'impossibilité de la pénétration, parce que alors on va t'assimiler à une femme ou à un PD. Ce glissement, ça devient une espèce de glissement de genre. C'est comme une trahison à la position masculine. Alors, pour nous, ça explique un peu la haine, la violence. Quand tu vois toutes les expressions dans vos plusieurs langues, enculé, andado por el culo, bueno, en anglais aussi, tu trouves des mots ou des expressions de haine sur la position du passif. Mais il faudrait expliquer ça. Pourquoi on perd la masculinité par le fait d'être pénétré?
28 octobre 2023, réunion. Un homme de 30 ans mis en examen après un meurtre homophobe à Salès. Rencontre homosexuelle mortelle. La cour d'assises se penche sur l'inquiétant. 9 décembre 2022, meurtre du Pouliquen. 18 ans de réclusion criminelle. 9 mai 2022, du professeur Anne Lechamp. L'homme nu et en sang retrouvé aux côtés du cadavre était 9 mars 2021. Lyon. La victime retrouvée sur un site gay avait été tuée de 263 coups de 15 avril 2019. Vie juif. La rencontre fatale de Daniel dans 27 juin 2020. Assise à Angers, elle tue son mari qui l'a quitté pour vivre son homosexualité. Mai 2019, 16 ans de prison. Val d'Oise, 3 individus écroués un an après le meurtre homophobe de Jouy Le Moutier.
Trahir la classe des hommes, en se faisant enculer, physiquement comme symboliquement, voilà ce que commet le PD. Scruté, surveillé et survisible, le corps PD paye cher cette trahison. Dans de nombreux pays du monde, les hommes homosexuels représentent, avec les femmes trans, une large majorité des meurtres LGBT-phobes, y compris en France. En 2021, enquêtant sur les meurtres invisibles d'hommes homosexuels, j'en ai listé une quinzaine ces 10 dernières années, partie émergée de l'iceberg. Daniel, Michel, Mario, Michael, Patrice ou Niki, autant de morts dont personne n'a chanté les noms. Le jour où j'écris ces lignes, j'apprends qu'un homme des Bouches-du-Rhône vient d'être tué lors d'un énième traquenard homophobe. En 2023, un film de Mediapart recensait au moins 300 cas en 5 ans d'hommes ayant survécu à des guet-apens sur des applications gays, soit un par semaine. Honorer la mémoire de nos morts et combattre le patriarcat, la folitude en étendard et la dérision pour armes, voilà la mission des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, un ordre atypique créé en 79 à San Francisco.
Bonsoir, bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Oui. Vous êtes sublime, magnifique, mais quel casting! Ah là là, je vous présente Cérémonie du Souvenir, qui nous vient tout droit du couvent du Nord, mais elle vit à Paris.
Malheureusement.
Et moi, je suis sœur Zora des Pâquerettes, d'un des couvents parisiens. Et ben voilà, on est là pour exorciser le lycée Stanislas et tous les autres lycées, collèges, écoles maternelles et primaires privées qui continuent de perpétuer des horreurs homophobes, transphobes et d'essayer de reproduire une espèce d'élite dégueulasse. Donc on va faire ça dans la joie, la bonne humeur, l'amour, la paix et les paix et la compassion, la bienveillance. Ça vous va?
Oui!
Super! On a 11 pages à vous lire. Ça va passer très vite. Ça va être super. Merci d'être là. Voilà! On y va? On y va. Mes très chères sœurs, mes bien chers frères, nous sommes les sœurs de la Perpétuelle Indulgence, un ordre pauvre, agnostique et dérisoire de folles radicales nées en l'an 10 à Prestonwall dans les bourgeonnements de la libération homosexuelle. Nous sommes réunis en ce jour du 6 février de l'an 54 après les émeutes de Stonewall, grand-mère de nos marches des fiertés, soit l'an 2024 pour les adeptes du calendrier grégorien, pour procéder à l'exorcisme du lycée Stanislas, de son corollaire, le collège Stanislas, mais aussi l'école primaire et maternelle du même nom. Cet exorcisme sera sans douleur, mais il est ô combien nécessaire. Vous êtes prêtes? Attention, ça fait pas mal. Démons de l'homophobie, de la transphobie, de la haine anti-LGBTQI, du sexisme et du patriarcat morbides et putrides, nous vous bannissons à jamais. Sortez du corps et de l'enceinte de ces lieux. Quittez cette institution et toutes celles où vous vous êtes installés. Disparaissez de cette planète. Redevenez les anges de fête, de joie et d'amour que vous avez jadis été. Alors le petit plumbèche pour finir. Plumbèche, la plume bénie, la Saint-Sabot, la cabanon. Plumbèche, à toi, à moi, le bocal d'anchois. Ça ne veut rien dire, mais ça nous a fait beaucoup plaisir.
C'était super.
Moins de pédales, plus de pédales, moins de pédales, plus de pédales, moins de pédales, plus de pédales, moins de pédales, moins de pédales.
Être ou ne pas être des hommes. Dans La Pensée Straight, en 78, l'écrivain lesbienne Monique Wittig avançait que les catégories hommes et femmes sont des fictions, n'existant que pour justifier l'exploitation des secondes par les premiers au sein du régime politique de l'hétérosexualité. Observant la façon dont les lesbiennes échappent en partie à cette domestication, elle concluait « Les lesbiennes ne sont pas des femmes ». À partir de cette grille de lecture, on peut également constater que, ne tuant pas, n'abusant pas, ne violentant pas et n'exploitant pas domestiquement les femmes, les gays ne sont donc pas tout à fait des hommes non plus. Avec les années, j'en ai même conclu que, plus qu'une orientation sexuelle, PD est un genre en soi, une position spécifique dans les rapports sociaux de sexe. Cette place trouble se manifeste dès l'enfance, les gamins gays s'avérant notamment surexposés aux violences sexuelles. Pour l'avoir vécu dans ma chair, j'en avais déjà l'intuition. L'étude Virage, en 2020, me l'a confirmé. Le nombre de gays déclarant des violences sexuelles intrafamiliales y est 12 fois supérieur à celui des hommes hétéros et au moins égal à celui des femmes. Les données révélant une nette surexposition des populations LGBTI à l'inceste. La même année, dans une enquête pour Vice baptisée « À la recherche du MeToo gay » et analysant la question des violences sexuelles à différents âges de la vie gay, y compris au sein de la communauté, j'interviewais Jean-Baptiste Bonjean du Manoir, un militant PD avec qui j'ai souvent échangé au fil des années. 4 mois plus tard, après le témoignage d'un militant communiste sur la plateforme X, MeToo gay devenait prise de parole collective.
Le mot PD, il est arrivé hyper tard pour moi. Je crois que le premier mot que j'ai verbalisé à quelqu'un d'autre pour désigner mon rapport à la sexualité et mon rapport au monde, c'était pédale. Et pas dans un but de réappropriation, puisque c'était au moment de la manif pour tous où il a fallu que je signale à ma famille que quand ils y allaient tous et tout ensemble en réunion de famille, dans le cadre familial dans lequel j'ai grandi, donc très catholique, aristocratique, militaire. Bah moi je m'y étais pas parce que moi j'étais une pédale et que ça allait contre moi, donc c'était pas du tout un mot que c'était pas valorisant pour le moment.
Est-ce que vous pouvez résumer en quelques phrases qu'a été MeToo gay? Est-ce que vous vous souvenez de quoi les gens témoignaient?
De l'âge beaucoup auquel ils ont eu leur ils ont subi leurs agressions sexuelles, de violences sexuelles qu'ils auraient subies de la part d'autres homosexuels, mais aussi de juste dans le cadre d'agressions physiques, de viols qu'ils auraient pu subir par des hétérosexuels qui utilisent aussi leur pouvoir d'homme hétérosexuel pour rabaisser l'homosexualité, notamment à travers la sexualité. C'est des ouais, j'ai été violé dans telle soirée, j'ai été violé dans les backrooms, j'ai été violé parce que par mon ex. Donc on a de la violence de viol conjugal, de la violence homophobe de rue qui prend des manifestations homosexuelles, enfin sexuelles, pas homosexuelles justement, et de viol dans l'enfance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de viols dans l'enfance qu'ils ont subis parce qu'ils faisaient trop aider, parce que c'était la tapette du coin, et de viols répétés, malheureusement, de beaucoup d'agressions.
Oui, parfois par des hommes adultes de leur famille, des cousins, des babysitters. potentiellement des, peut-être des profs parfois.
C'est pas vraiment une spécificité du MeToo gay, mais quand on regarde le profil des agresseurs, c'est des gens qui connaissaient, avec une posture d'encadrant, de référent social, d'une façon ou d'une autre. Ouais, des moniteurs de colo, des enseignants, des... on peut avoir des babysitters, et alors il y a évidemment les prêtres qui ont été un peu évoqués, mais finalement... Non, ouais, c'est des viols intrafamiliaux jeunes, et des viols comme les autres.
Pourquoi, selon vous, est-ce que les enfants PD sont autant exposés à ces violences-là ?
Pour moi, les enfants PD, avant même qu'ils se revendiquent PD, sont identifiés comme tels. C'est... On n'aime pas le foot, on n'a que des amis filles, on a des goûts qu'on va considérer comme féminins, genre les Barbie, la dinette. Et du coup, ce manque de virilité apparente, qui peut commencer très très jeune, nous est imposé et c'est pas du tout ce dont on a conscience.
Est-ce que donc il y a cette idée qu'être un petit garçon efféminé, ça assigne à une forme de féminité et que les petits PD comme les petites filles vont être des corps dont les agresseurs peuvent disposer ?
Dans une société qui est misogyne, qui n'aime pas les femmes, sauf pour les contrôler, les corps des petites filles, étant des femmes en devenir, sont des proies idéales, et les corps des garçons efféminés sont assimilés à des corps d'autant plus vulnérables, puisque on est exclu de ce groupe, de cette classe des hommes, pour être assimilé vers les déviants, rejeter la classe des hommes, sauf que dans un monde dichotomique, soit t'es un homme donc dominant, soit tu n'es pas un homme, et donc tu es une chose à dominer, une proie, le deuxième sexe, mais là c'est pas non plus le deuxième sexe, c'est juste, en tout cas pas le premier.
Quelle est l'ambiguïté, peut-être, ou la spécificité de la position sociale gay ?
Travailler sur les violences sexuelles subies par les gays, que ce soit par les hétéros ou entre gays, moi, ça m'a obligé à me poser la question de, en fait, qu'est-ce que ça veut dire être PD ? Qu'est-ce que ça veut dire être gay et même, moi, être PD ? Pour moi, on a le cul entre deux chaises, pour reprendre un fanzine qui s'appelle comme ça, le cul entre deux chaises. En fait, j'en avais marre d'être un mec PD et d'être ramené juste au fait d'être un mec. Et donc, du coup, qu'on me renvoie à l'hétérosexualité masculine pour traiter mon cas, alors que c'est l'hétérosexualité masculine qui a généré le cadre permissif des violences que j'ai subies, que je subis encore aujourd'hui. Et du coup...
On parlait d'une espèce de double statut ou d'une position un peu trouble.
Ouais, il y a un trouble dans la position qu'on a, puisque, en fait, en tant que PD, on a la possibilité de faire homme socialement, donc d'être viril, d'avoir des gros muscles, d'avoir une grosse voix, de pas être maniéré, d'adopter et de s'approprier les codes masculins, comme on a le choix de pas le faire. Et donc du coup, on a cette manifestation masculine et féminine qui reprend parfois à des moments des codes du schéma hétérosexuel.
C'est pas toujours un choix. J'ai même l'impression que souvent, il y a une forme d'échec à performer la masculinité et que c'est ça qui nous rend visible et nous trahit dans le regard hétérosexuel.
On est si nuls pour être des hommes, c'est si drôle. On est mauvais, on sait pas faire, puisque de toute façon, on ne peut pas le faire, puisqu'à un moment donné, les attentes de la masculinité ne correspondent pas à ce que nous, on a envie de faire dans nos vies. Et je comprends pourquoi on le fait, par contre. Parce qu'on a conscience de ce qu'on risque si, en fait, on répond pas à ces codes-là. Parce que la violence homophobe est... Bah, en fait, on meurt. On meurt de manière hyper vénère et récurrente. Enfin, le nombre de PD qui meurent sous les coups de l'homophobie... Il est énorme, mais en fait, oui, un seul, c'est déjà un trop. Pour moi, l'hétérosexualité, en agressant les PD et du coup les meufs trans, elle vient punir cette trahison à la domination patriarcale. Puisque de base, on s'attend et on nous prépare à intégrer le groupe des hommes. Quand on ne respecte pas les codes du groupe des hommes, un groupe des hommes qui s'installe dans la violence, qui existe en tant que pouvoir dominant et qui a besoin d'entretenir son hégémonie, bah, quand on ne l'entretient pas, en ne dominant pas les femmes correctement, ou en refusant d'être un homme, ou en ne supportant plus d'être un homme, et ben, du coup, on remet en cause ce caractère évident, inné, qui est le monolithe de la masculinité et du pouvoir masculin, du pouvoir des hommes. Et ça, c'est... En fait, quand tu retires à quelqu'un l'évidence de son privilège, de son confort... Et du coup, la réaction, elle est viscérale, parce qu'il faut le préserver, ce patriarcat. Il faut le garder, et donc, bah, pour le préserver, il faut annihiler ses traîtres et ses traîtresses. Et comme la marche est tellement haute entre la position des hommes et le reste du monde, d'un point de vue privilège social, la violence du déclassement, donc la chute est hyper haute, et ça se manifeste pour moi à travers des violences beaucoup plus physiques et beaucoup plus mortelles. Mais les hommes tuent, de toute façon, les hommes tuent de base. Donc ils tuent les femmes et ils tuent les PD et les meufs trans.
Devenir PD est loin d'être un parcours homogène. En mai 2023, j'ai emmené un micro à l'Exist Trans, la marche annuelle des personnes trans et intersexes, mobilisée cette année contre la loi Asile-Migration de Gérald Darmanin. J'ai retrouvé le cortège de Transfactrad, un collectif d'hommes trans, soit des personnes ayant fait un parcours de transition vers le sexe masculin, qui se revendiquent eux aussi PD. Sur leur banderole, Trans-PD fier contre les frontières.
On est quelque part dans Paris, à l'avant du cortège Trans-PD à l'Exist Trans. On a plusieurs pancartes, dont PMA pour les tatas, remboursement des strap-on par la sécu, garçon manqué, pédale réussie, quelques drapeaux arc-en-ciel et drapeaux trans.
Il y en a assez de cette société qui opprime les trans, les affaires et les MP, il y en a assez
dans la société, on voit le fait de transitionner d'être trans comme un chemin vers l'hétérosexualité. On transitionne parce qu'on est attiré par les femmes, parce qu'on veut relationner avec des femmes, parce qu'on est masculin. Le concept de changer de sexe pour être homosexuel, je pense, c'est une notion qui retourne complètement la tête des gens. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui a été très incompréhensible par ma famille, même au niveau des médecins, au niveau de l'accès à la transition médicale, etc. Moi, à l'époque où j'ai commencé ma transition, c'était en 2013.
Misha.
Ce qu'on nous conseillait de faire face aux médecins, c'était de prétendre être hétérosexuel, au moins bisexuel, au moins être attiré par les femmes en tant qu'homme. À ce moment-là, dans le milieu médical, c'était pas forcément une notion qui était admise. C'était quelque chose contre vous d'être homosexuel. Ça faisait-vous un mauvais trans? Ça faisait-vous un peu une incohérence?
En fait, qui aurait envie d'être un PD, quoi? Il y a un peu ça, j'ai l'impression, qui est présent par rapport à nous. Quel serait l'intérêt de se faire chier à transitionner, à passer par plein d'étapes compliquées dans notre vie, tout ça pour être un homme gay? Enfin, il y a comme un truc que la société semble pas comprendre, en fait.
Noé.
Enfin, on n'a pas en tête qu'on peut être un homme trans et être gay, quoi. En tout cas, on n'a pas en tête qu'on peut être une femme trans et lesbienne.
Je trouve que notre collectif est super important pour essayer de briser cette barrière parce que...
Lorraine.
C'est super important pour les jeunes personnes trans qu'on soit visible et de montrer qu'on a quand même une place quelque part dans le monde PD et que c'est rassurant de savoir qu'il y a des solidarités super belles dans ces espaces-là.
Et on parlait de devenir un homme gay. Je voulais savoir justement qu'est-ce que ça avait voulu dire pour vous de devenir PD.
Quelqu'un veut commencer?
Bah moi j'ai mis assez longtemps, enfin assez longtemps, j'exagère, j'ai transitionné à 17 ans donc voilà. Mais j'ai passé plusieurs années à ne pas vraiment comprendre, ni arriver à mettre des mots dessus parce que bah voilà, le discours officiel c'était si on est assigné femme pour ou assigné fille plutôt à la naissance pour avoir envie de devenir un homme ou pour se sentir homme, ou il faut forcément avoir rejeté toute féminité, avoir jouer avec des jouets pour garçons, faut forcément qu'il y ait des signes dès qu'on est enfant, etc. Et en fait, ben moi c'était un peu plus compliqué que ça. J'étais très littéraire. À chaque fois que j'essayais de comprendre ce qui m'arrivait et que je cherchais des informations, je me reconnaissais pas en fait dans les descriptions un peu voilà attendues. Enfin, c'était pas évident non plus ce truc d'être un homme gay parce que ben en fait les hommes hétérosexuels maturaient absolument pas. J'avais absolument pas jamais de la vie envie d'être en couple avec un homme en tant que femme. Vraiment, assez tôt, l'hétérosexualité, c'était vraiment pas pour moi, quoi. Et c'était assez clair. Et en fait, c'est que un jour où je me suis rendu compte que mon genre, c'était juste d'être un homme en dehors des stéréotypes de genre et que je pouvais être comme ça, en fait, tout simplement. Être un homme gay, c'était plus un truc de genre au début plutôt que de réelle orientation sexuelle. Pour moi, être gay, c'est une identité... qui parle pas que de l'orientation sexuelle, mais qui parle de, voilà, avec qui on aime traîner, ce qu'on aime faire dans la vie, comment on aime s'habiller, comment on aime être perçu. Enfin, c'est un truc social, en fait.
Est-ce que Devenir un PD, c'est tout à fait la même chose que devenir un homme.
Je me suis dit homme homosexuel avant de me dire trans. J'étais pas trans, j'étais un homme homosexuel. Mes amis me demandaient, mais du coup, t'es quoi toi exactement? J'avais 15 ans, je dis, mais je crois que je suis juste un homme gay en fait, finalement. Très rapidement, j'ai eu le droit à des insultes plutôt homophobes, plutôt discriminatoires de la part de camarades de classe, parce que c'est l'époque. Moi, je trouve que.
C'était quoi comme insulte?
Bah, pédale, pédé, ta fiole, ta pète, tout le menu, quoi, finalement. C'est vrai qu'il y a une époque où quand j'étais un peu androgyne, soit on traitait de gouine, de gouinasse, etc., ou de tapette à fiole, du coup je me suis dit, bon, en fait dans les deux cas, peu importe ce que je fais, ça va mal se passer, donc bah, tant qu'à faire, aller vers ce que je suis. Après le lycée, quand j'ai commencé mes études supérieures, j'habitais à Roubaix, où là j'ai subi beaucoup d'agressions homophobes, parfois quotidiennes en fait, dans la rue, en rentrant chez moi, en allant à l'école, en allant dans le métro, et ça m'a fait beaucoup de mal, c'est très humiliant. Tu te retrouves à te faire traiter de pédale dans la rue par quelqu'un et tu peux même rien répondre parce qu'en fait, c'est un homme adulte qui fait 1m80. Qu'est-ce que tu vas faire? J'avais 18 ans, j'étais comme ça. Et ça, c'était difficile, c'était humiliant. Même enfant, j'avais un attrait vers l'homosexualité masculine qui était peut-être pas forcément hyper commun chez d'autres enfants comme ça. Je me souviens même que j'avais vu un téléfilm qui parlait d'un couple gay qui essaie d'adopter, qui en gros était un peu homophobe en fait. Dans le film, ce couple gay perdait la garde d'une petite fille et s'était montré comme un peu le positif, c'était un truc de bon, ils veulent bien faire, mais c'est quand même pas un papa et une maman, quoi, tu vois. Et moi, j'avais 6 ans, et je me souviens que je m'imaginais devenir avocat pour défendre ce couple gay face à un tribunal de leur droit d'avoir un gamin. Et j'étais en CP, quoi. Et je me souviens que j'y pensais pendant des semaines et des semaines, ça m'enrageait.
Un jour, vous m'avez dit que devenir PD, c'était aussi découvrir la solitude.
Comment dire, pour planter un peu le décor, moi quand j'avais 12 ans, je me suis coupé les cheveux, je suis devenu végétarien, j'étais en mode je suis féministe, du coup j'étais hyper contre l'hétérosexualité mais d'un point de vue féministe comme ça. Et assez tôt, genre vers 14 ans, je commençais à traîner dans les milieux lesbiens, un peu par dépit pour traîner quelque part en fait, parce que je trouvais que en fait ce vécu de femme, il était hyper injuste, que il y avait vraiment une grosse injustice que je percevais comme ça et que j'avais besoin de solidarité à cet endroit-là. Et après, du coup, j'ai transitionné et d'un coup, j'ai été perçu comme un homme gay. Et là, d'un coup, j'ai eu l'impression que je me prenais une violence pour laquelle j'étais pas préparé. Je me suis dit, waouh, en fait, vu comment les hommes me regardent dans la rue, vu comment les hommes me parlent, en fait, faudrait que j'apprenne à me défendre physiquement, en fait. Et du coup, je me suis mis à chercher des lieux d'autodéfense, bah, spécifiques aux hommes gays, quoi. Et dès que je cherchais des espaces de solidarité à cet endroit, je n'en trouvais pas en fait, j'arrivais pas à en trouver. Et d'un coup, j'étais en mode ah ouais, ok, en fait, je suis seul dans cette merde, quoi. Genre vraiment, il y a rien. Je suis vraiment tout seul là-dedans. Ouais, j'étais en fait hyper choqué de découvrir à quel point en fait l'expérience de l'homosexualité masculine, c'est une expérience de solitude assez folle. Les hommes gays, on est perçus comme ceux qui ont gagné des droits, etc. On a le droit de se marier, on a le droit d'avoir des enfants, soi-disant, etc. Mais en fait, bah, on meurt d'alcoolisme, on meurt, le taux de suicide est énorme, tout ce qui est lié à l'isolement, bah, on en meurt en fait, quand on est un homme gay. Et moi, je crois que ça m'a vraiment choqué parce que j'étais en mode, ok, les personnes trans meurent d'isolement, c'est un problème de santé publique majeur. Et je pensais que, du coup, ce vécu d'isolement, il serait lié au fait d'être trans. Et en fait, là, d'un coup, j'ai découvert que ces personnes qui, du coup, bah, quand même, on se dit les hommes gays, c'est pas non plus la minorité archi-minoritaire. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est là que je me sens seul. On se construit tous de manière assez atomisée les uns des autres, dans la honte de notre sexualité, dans la honte de comment on est perçu, qu'on a ce vécu partagé de, voilà, soit devoir se faire discret, soit subir de la violence homophobe de manière assez quotidienne. Et que, ouais, les endroits où on se retrouve pour trouver un peu de chaleur, bah, c'est les endroits de baise, les endroits où on s'amuse, etc. Donc c'est cool, on s'amuse bien ensemble et tout, mais une fois que la fête est finie, on rentre chez nous, on est tout seul. C'est aussi ça qui me motive à être à Transfactrad. C'est ça qui m'a motivé à graviter autour des gens de PD La Revue, qui bah, font ce travail-là aussi, quoi.
Et Lorraine, tout à l'heure, vous évoquiez les formes de solidarité au sein de la communauté gay ou PD. Et je me demandais, est-ce qu'à l'inverse, parfois être trans-PD ou trans-gay dans ces espaces, c'est être confronté à des formes de rejet aussi ?
Bah oui, bien sûr. Et aussi, je pense que c'est une des choses qui font que c'est dur de transitionner pour devenir un homme gay, parce qu'on se dit qu'on va être rejeté dans ces espaces-là. Après, moi, personnellement, je trouve que c'est une transphobie qui est partout. mais on arrive de plus en plus, beaucoup de mecs trans PD, à aller dans ces espaces. Et en fait, y aller ensemble, ça nous permet déjà d'y être moins confrontés, j'ai l'impression, parce que c'est pas pareil d'être le seul trans isolé qu'on peut très facilement rejeter, à montrer que juste on existe dans ces espaces-là. Et c'est un des trucs où c'est très important que les espaces gays montrent leur solidarité envers les personnes trans et nous accueillir dans ces espaces-là, genre le dire ouvertement. Je pense particulièrement à des amis qui vont dans plein de saunas différents. Et en fait, les accueils sont très différents selon si c'est un sauna qui est ouvertement trans-friendly ou pas, quoi. Pour y avoir été dans un qui était trans-friendly, juste, les gens, ils existent. Et genre, juste pouvoir être là sans remarques ou regards bizarres, déjà, ça nous fait sortir de la solitude, en fait.
Moi, j'étais un homme qui fréquentait les milieux gays pendant pas mal d'années, en fait, et je parlais pas du fait que j'étais trans, j'étais juste présent dans ces endroits-là, quoi. Comme beaucoup, je pensais que j'étais tout seul, quoi. Du coup, même juste l'idée d'être plusieurs transpédés dans un espace gay, mais c'est incroyable pour moi, c'est génial, en fait.
Le Zemel subit la violence de la fétichisation de son corps et de sa sexualité, et dans le même temps l'intériorise, jusqu'à en exacerber parfois les traits, pour se faire une place dans l'espace compétitif de la sexualité homosexuelle masculine française. Le Zemel subit la double peine, du risque de l'exclusion sociale de sa famille et de sa communauté, et le risque de prédation racialement construite sur le dos de sa supposée vulnérabilité dans la communauté censée l'accueillir. Le Zemel existe à la marge de l'homosexualité et de l'arabité.
Jacques Bollem, pourquoi est-ce que c'est difficile pour vous de vous dire PD ?
Alors c'est difficile pour moi de s'approprier ce terme-là, parce que dès les années 60-70, on pense au phare, la militance homosexuelle de ces années-là, elle se construit en large partie sans les hommes arabes. Elle se construit par contre avec l'imaginaire de l'homme arabe toujours en fond, en toile de fond. On les fétichise, on fétichise leur sexualité, on l'imagine comme une forme de sexualité libératrice, qu'importe ce que ça veut dire aussi. Et en même temps, on va coucher avec des hommes arabes, mais en même temps, finalement, on ne les fait pas parler. On leur parle peu, on les inclut peu, et finalement, ils sont assez absents de la militance homosexuelle de ces années-là. Dès le début, l'homosexuel est blanc, l'arabe est hétérosexuel, et celui qui est entre les deux est un peu vagabond.
Et du coup, vous préférez un autre terme ? Quel est-il ?
Aujourd'hui, moi, j'aime bien le terme de Zemel, parce que c'est un terme avec lequel j'ai grandi, que j'ai pu entendre. Zemel, c'est l'équivalent, on va dire, de PD en arabe, un des équivalents qui existe pour PD. Du coup, ça aura plutôt tendance à être effectivement un terme utilisé comme une insulte, que j'ai décidé de reprendre à mon compte.
Vous parliez une fois de la difficulté de se nommer que vous rencontriez. En quoi elle est spécifique, cette difficulté-là ?
En fait, on parle beaucoup de nous, des deux côtés. Donc du côté du champ de l'homosexualité, on a beaucoup parlé de la sexualité des hommes arabes. C'est le sujet de fantasmes, c'est le sujet d'un fétiche omniprésent, notamment dans le porno, dans les sites de rencontres. C'est quelque chose qu'on rencontre tout le temps, la figure de l'homme arabe. De l'autre côté, du côté, on va dire, plus de l'arabité, on va parler beaucoup de l'homosexualité, de la déviance homosexuelle en quelque sorte. Mais les personnes qui sont à la rencontre de ces deux-là, elles sont souvent invisibilisées des deux mondes. On s'auto-exclut des sociabilités arabes, notamment pour peut-être se préserver, pour se protéger aussi en partie, mais on est aussi exclu par des dynamiques souvent racistes, des espaces homosexuels. Et finalement, on se retrouve un peu laissé pour compte, sachant que notre histoire aussi est largement invisibilisée. Quand je me suis vraiment intéressé à ces questions-là et que j'étais un peu frustré de ce que je pouvais voir, j'ai trouvé l'existence d'une association qui s'appelait Kalma, qui a été fondée en 1997 par Fouad Zerraoui, un homme algérien exilé en France. Kalma voulant dire parole en arabe, qui était une association à destination et par des hommes arabes gays qui se revendiquaient comme tels, qui avait plusieurs vocations, qui avait monté un site de rencontre tout simplement pour pouvoir se rencontrer, avoir une sociabilité entre hommes arabes et gays, mais qui a aussi participé à des prides. On a des images dans les années 90 de chars à la pride de Paris avec des drapeaux maghrébins. Et on a aussi des soirées qui ont été créées à ce moment-là, un magazine qui a été créé à ce moment-là, donc toute une production en réalité sur ces questions-là et qui ont un peu disparu. On va dire des mémoires collectives en tout cas. Et au fur et à mesure, et c'est quelque chose que Fouad Zerraoui disait dans des interviews, au fur et à mesure qu'il y a eu une avancée réactionnaire en France, notamment à partir de 2001, mais aussi à partir de l'arrivée de Nicolas Sarkozy comme ministre de l'Intérieur, qui est un moment assez phare, en fait, c'est un tournant pour les Arabes de France, il y a un vrai reflux de tous les mouvements de libération, on va dire, ou d'émancipation minoritaire arabe. Fouad Zerraoui, en tout cas, l'identifie comme ça, de dire qu'à partir du moment où Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, les Arabes gays sont retournés chez eux. Finalement, le climat politique dans lequel on est aujourd'hui et dans lequel on s'inscrit depuis presque 20 ans maintenant n'est pas propice, d'une part, à délier les langues sur ce qui a pu exister et d'autre part, à simplement explorer ces sujets-là.
Est-ce que vous avez l'impression, depuis la position qu'est la vôtre, d'être pris dans un sort d'étau ?
Sur plusieurs pans, l'État aujourd'hui, il avait quand même mis en place tout un certain nombre de politiques sur les questions de ce qu'ils appellent diversité, notamment sur les minorités de genre, les sexualités, dans lesquelles il véhicule un discours qui viserait en tout cas à proposer notre émancipation contre nos communautés. Et le présupposé initial, c'est que nos communautés sont nécessairement excluantes, d'une part, et d'autre part que nous, on souhaiterait couper le lien. Finalement, le choix qui nous est proposé, c'est soit vous vivez dans la discrétion, soit vivez librement votre sexualité, mais sans votre communauté. Sacrifiez votre communauté au passage, au demeurant aussi, si vous pouvez la dénoncer, si vous pouvez dénoncer son conservatisme supposé, c'est encore mieux. Ça répond à un imaginaire assez ancien, et ça répond aussi à des stratégies assez anciennes, qui est que, en général, l'État français, dans d'autres aventures passées, notamment les aventures coloniales, a eu tendance à monter des minorités entre elles. J'ai l'impression que plus on avance, moins, effectivement, on a la place pour parler de sujets comme celui-ci, parce que c'est pas nécessairement l'urgence quotidienne. L'urgence quotidienne, aujourd'hui, c'est que j'ai des cousins qui se font contrôler, violenter, que j'ai des personnes de ma famille qui vont se retrouver dans des situations beaucoup plus violentes du fait du racisme d'État, que je peux avoir des cousines qui vont être soumises à un contrôle à l'entrée de leur lycée. Enfin, c'est des choses qui sont très concrètes. Donc on est d'abord sur cette urgence-là, effectivement. Si on n'avait pas l'urgence raciste à laquelle est confrontée la communauté maghrébine au quotidien, de voir sa tête apparaître à la télé chaque semaine, on aurait sûrement plus d'espace pour pouvoir nous-mêmes mener nos propres conversations, nos propres luttes à l'intérieur de notre communauté. Et c'est quelque chose qui est nécessaire, mais qui est très complexe à accomplir dans un pays où l'État est omniprésent dans nos rapports sociaux en tant qu'Arabe.
Merci à Antoine Hidier, au collectif La Théière, à Ruby Fort, à Javier Saez, à Jean-Baptiste Bonjean du Manoir, à Sœur Zora des Pâquerettes et Sœur Émonie du Souvenir, au collectif Transfactrade et à Jacques Boilem. Merci également aux Beaux-Arts de Paris. Lecture, Martin Dust et Nance Laborde-Jourdain. Prise de son, Gilles Gallinaro, Raymond Albouille et Guillaume Leduc.
Mixage, Éric Boisset.
Documentation, Anne-Lise Signoret. Archivina, Pierre Pinault. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. PD, Réinventer le monde. Se dire PD, un genre en soi. Un documentaire de Camille Desombres, réalisé par Gilles Blanchard. À suivre, PD, Réinventer le monde, les PD et la police. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.